France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Je vous l'avais promis, aujourd'hui, hommage à notre chère Annie Cordy, disparue le 4 septembre à l'âge de 92 ans. Je l'avais invitée dès le début de cette émission en 1999, et encore il n'y a pas si longtemps pour évoquer par téléphone ses souvenirs du Tour de France. Mais aujourd'hui, je vous propose de réentendre les deux passionnants entretiens de mai et juin 2010, où elle racontait sa vie à travers les opérettes et comédies musicales qu'elle avait créées. Pétillante, chaleureuse, généreuse, c'était le style inimitable d'Annie Cordy.
Les trois bandits de Napoli, tout doucement, ils descendaient de la montagne pour aller au ravitaillement. Car Pardi, au bout d'un moment, marquait la faim, elle vous ténaille les entrailles. Le plus petit marchait devant, car le pays, il est infesté de gendarmes. Au moindre bruit, au moindre vent, on l'entendait claquer des dents, c'était sa façon de donner l'alarme. Derrière venait le second, armé d'un bon vieux tromblon. Le troisième n'était pas loin de rebrousser chemin. Les trois bandits de Napoli, tout en tremblant, se dirigeaient vers le village. Avec le fruit de leur rançon, ils allaient faire leur commission, chacun avec un petit filet à provision. Imaginez la panique dès qu'ils firent leur apparition. On ferma toutes les boutiques, on boucla toutes les maisons. Ils ne trouvèrent, c'est tragique, pas le moindre petit crouton. Pour ne pas manger des briques, il n'y avait qu'une solution. Les trois bandits de Napoli, tout en pleurant, s'en sont allés chez les gendarmes. Bonjour, monsieur le brigadier, on se constitue prisonnier, pour que la faim il nous tenaille des entrailles. Alors c'est vous, les trois bandits, c'est vous les seuls qui attaquez les diligences. Mais vous me prenez pour un enfant, j'ai justement leur signalement, je vais vous apprendre à vous moquer des gens. Vous êtes trois imposteurs, mais malgré tout j'ai du cœur. Mangez donc ces spaghettis et fichez-moi le camp d'ici. Les trois bandits de Napoli, tout en chantant, sont remontés dans la montagne, en emportant une saucisson, deux parmesan et trois jambons, ainsi que la femme du gardien chef de la prison. Car pour aider les bandits, les trois bandits de Napoli, il n'y a que la gendarmerie.
Et vive les gendarmes et la marée chaussée.
Et vive les gendarmes, maintenant qu'on a mangé.
Maintenant qu'on a mangé. Pipom, pipom. Pipom, pipom. Pipom, pipom. Pipom.
Une chanson sketch, comme on les aimait bien à l'époque,
ouais,
en 1952.
Bah, beaucoup de dialogue.
Bonjour Annie Cordy.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous voir.
C'est gentil.
De vous revoir ici. Et je me suis dit, bon, on va remonter dans le temps. On va commencer avec cette chanson de 1952. Voilà.
Oui, ça n'aura jeuni tout ça, c'est bien.
Ça fait exactement 58 ans.
Oui.
Depuis, vous avez vu passer 8 présidents de la République.
Oui, c'est vrai ça.
Et vous êtes toujours là sur scène avec la même énergie, mais c'est fascinant. Vous avez des petits secrets
Non, pas du tout. Non. Mon secret, c'est la passion de ce métier.
Ouais.
C'est la passion de partager avec les gens qui viennent me voir.
Voilà.
C'est la passion de chanter, quoi, de jouer.
Vous avez pensé une ou deux fois, je relisais des choses sur votre carrière, une ou deux fois un peu prendre votre retraite, vous arrêter, puis finalement...
Pas du tout, jamais.
Non ?
Ah non, jamais. Un jour, il y a quelqu'un qui a écrit, elle fait sa dernière tournée.
Voilà.
Je l'ai au téléphone, ça a été sa fête.
D'accord, c'était pas vrai, en fait.
C'est pas vrai. Non,
c'était pas vrai.
S'il veut que je prenne ma retraite, bon... Je reprendrai, mais beaucoup plus tard. D'ailleurs, retraite doit être retirée du dictionnaire. Parce que retraite, moi, je suis une enfant de la guerre. Donc, je peux vous dire que retraite, ça voulait dire défaite. Alors, pas de retraite, pas de défaite. Trouvez autre chose. Vivez un peu moins fougueusement, mais c'est tout, quoi.
Alors, au nombre des petits secrets, je ne sais pas si c'en est un, on m'a dit que vous mangez du camembert au petit déjeuner.
Ah oui, mais ça m'arrive.
C'est vrai, ça?
Ah oui, souvent, oui. Moi, je peux manger du fromage. Je pourrais même manger un cassoulet le matin, moi.
Ah bon, vous savez, petit déjeuner très copieux.
Oui, je suis un déjeuner, petit déjeuner très... très copieux.
Parce que c'est un des paradoxes, c'est que vous êtes une femme, évidemment, de scène, donc on penserait du soir, mais vous êtes aussi une femme du matin.
Ouais. Hein? 7 heures du matin,
tous
debout.
Les jours.
Moi, je prépare le petit déjeuner, je fais le café, la mets la table, tout ça. Mais j'aime ça.
C'est ça
je
ça.
Sors ça se sent. La vaisselle qui est dans le... dans la machine de la veille, quoi. Hop, je sortais, je laisse sécher un peu parce qu'il n'y a rien de plus enquiquinant que les trucs qui sont encore mouillés à la main. Bah, hop.
Bref, vous vous reposez de temps en temps
Oui, ça m'arrive. Mais par exemple, je ne dors pratiquement pas en voiture, alors que je fais quand même 400 bornes quelquefois. Hein.
Ouais.
Alors, Michel, ma nièce qui est toujours avec moi, qui me dit ma reine dort un peu, ma reine. Je dis mais je ne peux pas me filer un coup de maillet sur la tête. Je ne peux pas dormir, Hein. Je ne dors pas beaucoup.
Bah, c'est ça, hein. Ça. C'est aussi la chance des gens qui font beaucoup, beaucoup de choses. C'est que souvent, ils n'ont pas énormément besoin de sommeil.
Non,
c'est
voilà. Et au plus je vais dans la vie, au moins j'ai besoin de sommeil.
Ouais, écoutez, en tout cas, voilà, c'est un bonheur pour tout le monde de voir comme ça cette carrière merveilleuse qui dure avec la même énergie, la même bonne humeur. Et bon, alors, on a commencé par une petite chanson sketch comme ça pour remonter dans le temps, qui est une de vos premières chansons enregistrées.
Oui.
Mais je me suis dit que pour votre retour dans l'émission, on allait évoquer plus précisément toutes les opérettes et les comédies musicales de votre carrière, parce que je pense que c'est intéressant pour les auditeurs qui aiment beaucoup ces deux genres-là.
On n'est pas sortis de la
maison. Mais juste, avant de commencer, peut-être une petite question. Est-ce que ça vous a apporté justement de faire de l'opérette, c'est-à-dire donc à la fois de chanter, mais aussi de
parler.
Jouer des scènes, de
jouer,
parler
oui.
Est-ce que ça a été quelque chose d'important à côté des tours de chant dans votre vie?
Ah oui, ça n'a rien à voir. Hein. Enfin, ça n'a rien à voir. Si, à la chanson, c'est pareil. Mais je veux dire, ce qui est important aussi, est-ce que vous pouvez parler et parler juste, c'est important.
Oui.
Est-ce qu'on peut vous faire chanter une chanson douce, mais pas comme ça d'un coup? Il faut bien... arriver, par exemple, avec une chanson que je chante avec Bourville, on commençait à parler beaucoup plus lentement, beaucoup plus doucement. Donc, il faut tout ça.
Mais tout ça,
c'est de la musique, en fait.
Ah, oui.
Pour arriver à trouver quelque chose de triste, il faut en arriver là, il faut du temps. Donc... Moi, j'aime beaucoup l'opérette, j'aime beaucoup la comédie musicale, et je fais du théâtre en ce moment, j'aime ça, j'adore.
Tout le temps, voilà, c'est ça. Vous avez ce besoin-là, autant que celui de chanter. Hein.
Ah oui, absolument.
Alors, ça a commencé d'ailleurs, alors vous me le disiez juste avant l'émission, moi je me disais, bon, ça y est, on va remonter dans le temps, on va commencer par sa première opérette, La Route Fleurie, en 1952.
Étonnez-moi, Benoît.
Eh ben non, oui, je vous ai pas étonné. C'est vous qui m'étonnez. En fait, vous avez commencé l'opérette avant 1952. Vous étiez encore une jeune fille de Bruxelles.
Oui.
Et vous vouliez faire du spectacle.
Même pas. J'avais fait des radio-crochets. J'avais eu la chance de gagner beaucoup de radio-crochets. J'avais d'ailleurs fait l'ancienne Belgique, qui était le plus grand music hall de Bruxelles à l'époque. Et puis, c'était tout de suite après la guerre. Il y avait une tournée pour les Anglais qui s'appelait ENSA. Je ne sais même plus ce que ça voulait dire. English National Army, ou je ne sais pas quoi. Et celle qui a créé Non, Non, Annette en Angleterre, c'était la sœur de Gladys Marlan.
Ouais.
Voilà. Et sa sœur, elle avait un bar à Bruxelles. Et donc, Gladys voulait reprendre une opérette en tournée pour les Anglais, donc. Et elle cherchait une jeune femme pour faire partie du spectacle. Moi, j'ai joué Winnie.
Ouais.
On était trois jeunes filles, Winnie, qui étaient des amies de Nanette.
Ouais. Et voilà, les girls, quoi.
Les girls, voilà, mais on dansait pas. Ouais. Mais on faisait des spectacles, je ne peux pas vous dire, pour l'armée anglaise. On était sous des tentes, il faisait un froid de loup. Il y avait des gros poils, je ne sais pas comment ça s'appelle, des grands poils comme ça, au milieu de la salle. Mais nous, on glaglatait parce que ça se passe quand même en été, non, Nanette. Hein, et on avait des petits trembles, bon, on avait un petit peu froid. Et je chantais donc Non, Nanette.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque où vous étiez une toute jeune fille, avant de venir à Paris, à Bruxelles, vous étiez une zinique?
Une zinique.
Zinique, pardon, j'ai essayé de bien le faire. Ça, je le dis pour les auditeurs, c'est un peu l'équivalent du titi parisien, mais version Bruxelles.
Bruxelloise, hein, oui. Un zinique, ça veut dire un bâtard, parce que je suis née Wallonne, du Flamande, hein, je suis Brabançonne, je suis née à Bruxelles, c'est-à-dire à Laeken, tout à côté du château du roi. Château de Laeken, c'est très connu. Alors, je disais toujours, le roi n'est pas mon cousin, mais c'est mon voisin. Voilà.
Voilà, Zinneke.
Zinneke.
Zinneke, pardon.
Zinneke.
Je fais des progrès hein, petit à petit.
On reverra ça après.
On reverra ça après. Allez, on va faire un petit saut quand même et aller directement vers Paris. Et toujours d'ailleurs la même année que Les Bandits de Napoli en 1952.
« suis une subitiste, je fais tout subitement, sans y penser une seconde avant. Je fais tout à l'improviste, en deux temps, trois mouvements, sans m'occuper de l'opinion des gens. Sitôt que je suis en but au désir d'un vieux galant, j'ai pas plutôt pensé flûte que je dis immédiatement. Puis toujours très subitiste, je m'excuse en ajoutant, va te faire voir si tu n'es pas content. J'ai vu l'autre matin aux Galeries Lafayette un petit pantalon en nylon transparent, et devant le vendeur qui en perdait la tête, je l'ai passé sur le champ. Quand je vais au théâtre, il ne faut pas qu'on me gêne, et si j'ai devant moi un grand chapeau à fleurs, je le prends subito et l'envoie sur la scène. Ça fait plaisir aux acteurs. Je suis une subitiste, je fais tout subitement, sans y penser une seconde avant. Quand je vois à l'improviste un garçon très séduisant, je sens mon œil cligner subitement. Et pourtant mon cœur hésite, car je sais bien qu'en amour, qui veut démarrer trop vite ne finit pas le parcours. Et comme je suis subitiste, quand il s'amène en pensant, c'est du tout puis, moi je le laisse en plan. Vous pourrez, si ça vous prend, chanter le jour, chanter la nuit, chanter l'amour, chanter la vie, chanter toujours, chanter nuit et jour. Vive les subitistes!
Annie Cordy, en 1952, dans son premier grand rôle d'opérette, donc oui. La route fleurie de Francis Lopez.
Alors, Raymond Vinci.
Et Raymond Vinci, bien sûr. Oui. Comment vous êtes donc arrivé dans cette production? Alors, à Bruxelles, vous aviez donc commencé à vous faire remarquer par le monde du show business, hein, belge, oui. Et peut-être un peu français aussi, qui venait de temps en temps voir ce qui se passait là-bas.
Oui, oui, mais je gagnais beaucoup de radio-crochets, ce qui fait que j'ai eu la chance de travailler dans un musical qui s'appelait L'Ancienne Belgique, où j'avais des tours de chant et tout ça, où j'ai fait de la revue pendant un moment, jouais des sketchs plutôt. Hein, des sketchs. Ouais. Après, on m'a demandé au Bœuf sur le Top pour mener la revue.
Voilà.
Comme une revue du Lido. Et on avait des Bluebell Girls, on avait une troupe de Bluebell Girls comme au Lido. Ouais. Et Miss Bluebell, qui venait très souvent voir ces Bluebell Girls, a dit à M. Clérico, qui était le patron du Lido de Paris, et qui recherchait une meneuse de revue pour sa revue future, lui a dit, il y a une petite bruxelloise, il faudrait venir la voir, parce que ça serait peut-être pas mal. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Paris en 1950. Le 1er mai 1950, j'ai débarqué à Paris.
Voilà.
Le jour du travail. Je n'ai pas arrêté depuis le 1er mai.
Meneuse de revue au Lido, c'était pas mal pour commencer, mais en même temps, c'est peut-être pas ce qui vous fascinait le plus dans le métier, ou vous saviez pas encore très bien.
Peut-être, je savais pas très bien. Hein. Oui. Je voulais chanter. Hein.
Vous vouliez chanter.
Je voulais chanter, c'était ça. Mais les plumes et les strass, ça n'a pas toujours été ma tasse de thé.
C'est non, ça, non, voilà. Non. Et alors donc, en 52, alors un petit peu après, vous avez gagné le concours de chant de Deauville, qui était un concours très important à l'époque.
Pour
la chanson, c'était le prix Chevalier.
Il y avait plein de prix, le prix Piaf, tout ça. Et le prix Chevalier. D'ailleurs, j'ai failli avoir le prix Piaf parce que je suis arrivée en ex-éco, parce que j'avais un copain, Roger Lucchesi, qui avait écrit une chanson pour le prix Piaf, et son interprète n'était pas venu. Et comme c'était un copain, mon mari, il a dit, il faut que Nini, elle chante ça aussi. Alors j'ai fait le prix Piaf et le prix Chevalier. Voilà. Et je suis arrivée ex-éco avec la première de Piaf, et je suis arrivée première en Chevalier. Il a fallu choisir. J'ai quand même choisi le Chevalier. Parce que,
c'est quand même pas mal. Hein.
Oui, c'est pas mal. Hein.
D'autant plus que Chevalier a toujours beaucoup de sympathie pour vous, hein, par la suite, ça a été un de vos grands parrains, on peut dire.
Mais parce que Chevalier, il m'a vu quand j'avais 17 ans et que je travaillais dans une brasserie à Knokke-le-Zoet, et il passait au casino. Et moi, je passais à la brasserie, l'Albertville ou un truc comme ça. Et il se baladait avec sa canne et sa casquette le matin. Et on lui avait dit, il y a une petite qui chante là-bas. Il était venu me voir l'après-midi. On faisait 3 représentations par jour, là. Et il m'avait dit, vous deviendrez quelque chose, je vous retrouverai un jour. Et il était à la première du Lido en 1950.
Voilà. Alors, qui est-ce qui vous a engagé dans la Route Fleurie, en fait ?
Dans la Route Fleurie, j'aurais dû faire l'opérette d'avant.
Ah oui ?
Oui. Parce que pendant que j'étais au Bœuf sur le Toit, que je menais la revue,
à Bruxelles,
on m'a dit, tiens, il y a un monsieur qui veut absolument te parler. Je dis oui, et qui c'est ? Francis Lopez. Je dis, qui c'est ça ? Je ne savais pas du tout. Alors j'ai rencontré ce monsieur, et qui me dit, voilà, je suis Francis Lopez. Oui, monsieur, je sais. Et il me dit, voilà, j'écris une opérette et j'aurai un rôle pour vous. Oh, je dis, non, monsieur, moi je veux parler à Paris, vous savez, moi je gagne bien ma vie, si je suis avec mon papa et ma maman. Là, on est parvenu. Et je l'ai retrouvé pour la Route Fleurie.
Voilà.
Et il m'a dit, cette fois-ci, je vous tiens.
Je vous tiens. Voilà. Mais il fallait quand même que la vedette du spectacle, qui était Georges Guettari, soit d'accord.
Évidemment. Ouais. Il fallait le veto, il fallait qu'il me voie. Hein.
Ouais.
C'était une énorme vedette, Georges, à l'époque.
Ouais,
hein.
Ouais.
Il est venu me voir parce que je passais au Moulin Rouge, je chantais 2-3 chansons au Moulin Rouge.
Ouais.
Il était venu me voir, il avait dit, ok, on peut la prendre, la petite, là, bon, bah, ça va. Hein, voilà.
Mais Bourvil, il ne devait pas donner son avis, lui ?
Non, parce que Bourvil, à l'époque, en 52, il avait fait 2 opérettes qui n'avaient pas beaucoup
tellement
marché. Il est donc un peu en descente.
Il était en dessous de Guettari dans l'affiche, si on
absolument,
peut dire.
Ah, oui. Absolument. Ah oui. Et alors, on répétait avec Dédé, avec Bourvil. Et comme on ne s'occupait pas beaucoup de nous, on s'occupait surtout de Georges Guettari et de Claude Harvel, qui était le couple
principal,
amoureux et tout ça. Et alors, je disais à Bourvil, et alors, ça va marcher, ça. Puis, il me disait, jamais personne ne va rire avec ce qu'on dit. Moi, j'étais dans un état lamentable. Alors, il me dit, viens, on va boire quelque chose. A Guinness, because Guinness is good for you. Parce que c'était une pub à l'époque, en 52, il y avait partout Guinness is good for you. Alors, ça va te remonter le moral, quoi. Et puis, on a joué la Route Fleurie, on est allé au Célestin à Lyon. Parce qu'à l'époque, on rodait.
Oui, on bien sûr. Et souvent, au Célestin, c'était un grand théâtre.
Ah oui, formidable. Et alors, on est rentré sur scène et on a joué la pièce 3 fois. Le même soir, hein. Parce qu'à chaque réplique, les gens riaient tellement qu'on était obligés de répéter ce qu'on venait de dire.
Ah, oui.
Et on se regardait hagards tous les deux. C'était formidable.
Donc vous étiez le couple fantaisiste,
absolument,
vous, avec Bourvil, puisque c'est le principe
oui,
de l'opérette,
absolument,
le couple de jeunes premiers, le couple de fantaisistes. Vous avez sympathisé avec Lopez, ça s'est bien passé,
oui.
Ça a été chaleureux, ça a été...
Oui, puisqu'après j'en ai encore fait 2.
Je sais bien, on va en parler, mais je veux dire, vous avez une relation personnelle agréable.
Agréable, et puis après il a été copain avec mon mari, donc ça s'est arrangé très bien. Non,
d'accord.
Mais Francis est un copain. D'ailleurs, tous ces gens autour de moi, c'était des copains.
La Route Fleurie, c'est vous n'aviez pas encore le premier rôle, mais enfin, j'imagine que c'est un bon souvenir après les représentations à Paris.
Ah oui, c'est formidable. J'ai joué la Route Fleurie pendant 2 ans, près de 2 ans.
À l'ABC. Hein.
À l'ABC, au théâtre de l'ABC. Le directeur, c'était Goldin et M. Ledoux. Ils avaient chacun... Je pense que Ledoux avait 52% et lui, il en avait 48%, mais c'était lui qui commandait Goldin. Et puis, le théâtre de l'ABC, c'était un très bon théâtre. Pierre Fille avait joué. Et puis, on avait une très bonne troupe. Hein. On se comprenait très, très bien. Ça s'est très bien passé. Et puis, moi, je commençais à bien marcher. J'avais fait un disque. Et puis, j'ai voulu m'en aller.
Ben voilà. Parce que ça, pendant 2 ans, ça veut dire que vous ne faisiez plus de tour de chant, quasiment.
Ben non.
C'est ça.
Plus du tout. Ouais. Mais j'avais enregistré un disque qui commençait à bien marcher, bien démarrer. Ouais. Et puis, on voulait faire l'Olympia. Enfin, avec mon mari, on s'est dit on pourrait faire l'Olympia. Ouais. Mais avec Goldin, ça ne marchait pas comme ça. Il a fallu payer, etc. Enfin, bref, c'est lui.
Mais c'est la raison pour laquelle, alors peut-être vous avez attendu quelques années avant de revenir à l'opérette pour pouvoir aussi mener votre carrière de chanteuse, c'est ça ?
Absolument.
Voilà.
Oh, hein. Oui.
Parce que la suivante, c'est donc Tête de Linotte, et c'est en 1957.
Ah, oui, j'étais en Amérique, oh là là, attendez,
Il s'est passé beaucoup de choses entre deux, mais...
Oh là là, j'ai été au Brésil, au Mexique, à Cuba, à New York, j'ai fait 1 mois à New York, et alors Chevalier m'avait dit une chose, et il me dit, écoute, parce que je parle comme pas mal l'anglais, il me dit, écoute, les Américains, pour qu'ils comprennent bien, il faut d'abord que tu expliques, et puis après tu mimes, et après tu chantes, et là,
on va passer tout de suite à Tête de Linotte. Un mot encore d'une autre opérette que vous n'avez pas faite en scène, mais au cinéma. Juste avant, c'était en 1956. C'est Avec Bourvil, toujours le chanteur de Mexico.
Ah, le chanteur de Mexico, avec Mariano.
Et Mariano, bien sûr. Ah, ben, mais au cinéma.
Au cinéma, au oui, cinéma. Oui. C'est pas moi qui l'ai créé au voilà, Châtelet, hein, c'était Lilo.
Voilà.
Qui est partie en Amérique, elle.
Mais heureusement, on a les images du film qui permettent de vous retrouver en cette année 56, oui, oui, oui. Mais dans cette œuvre que vous n'avez jamais fait en scène.
Jamais. Chanteur de Mexico, non. Jamais.
Voilà. C'est un bon souvenir, le tournage du chanteur.
Ah oui, oui. Avec Lelou et Bourvil. Oh, oui. Oui, oh, oui. Ah oui, on s'est régalé. On était un joyeux trio.
Voilà. Vous voyez encore dansant le cha-cha-cha.
Ah
là,
oui,
avec Bourvil,
il m'avait marché sur le pied. Oh mais purée, j'en ai mis un moment pour m'en remettre. Hein, voilà. Parce qu'il chantait quand même du 46, hein, Bourvil. Pas l'oublier.
C'est un bal musette pour les gigolettes. Le bal à Jojo, la fleur bleue. Mais les femmes du monde qui se dévergondent viennent y chercher du curieux. Là-bas, toutes les pépées sont encore chipées pour la chaloupée. Là-bas, tous les malabars portent des costards épinards. Et pour les moussous, pour le grand forisson, il y a de la bagarre au bidon. Et pendant ce temps-là, sur un air de Java, y a Jojo, la fleur bleue qui vous sort le grand jeu. Quand on voit ses lidoises à la fois caresser son bignou, ça vous en fiche un coup. Dans ce bal musette, il y a deux fortes têtes, c'est Léon l'athlète et Toto. Pour Nana la grosse, quand ils ont des crosses, ça devient féroce aussitôt. Toto, à coup de siphon, tape sur Léon sans lui dire pardon. Léon, à coup de couteau, troue le bas du dos de Toto. Ça vous paraît dur, mais ces durs de dur sont beaucoup plus durs qu'un œuf dur. Et pendant ce temps-là, sur un air de Java, y a Jojo, la fleur bleue qui vous sort le grand jeu. Quand on voit ses lidoises à la fois travailler en loose dé, ça vous donne des idées. Toutes les perruches, toutes les greluches ont le palpitant qui secoue. Pour ce grand artiste et son regard triste, doux comme du vrai roudoudou. Parfois devant les pépés, de riches poupées cherchent à le vamper. Alors c'est la corrida, le grand pugilat des nanas. Là, il y a du pétard. Là, c'est pas du chat. Là, il faut chercher les brancards. Et pendant ce temps-là, sur un air de Java, y a Jojo, la fleur bleue qui vous sort le grand jeu. Quand on voit ses lidoises à la fois, allez du haut en bas, il y a toujours du dégât. Avouez qu'il est chouette et vraiment merveilleux, le petit ballage Jojo, la fleur bleue.
Annie Cordy en Parigote. Oui. Vous aimez bien le style musette.
Mais j'aime tous les styles noirs.
C'est bien, c'est
mais
bien.
Mais pour l'opérette, il fallait que je joue donc de l'accordéon, que je fasse semblant. Je faisais semblant de jouer.
Ah, c'est vous qui faisiez semblant en playback.
Non,
enfin, avec le musicien.
Avec les musiciens. Derrière, mais... parce qu'on en manquera à l'époque l'orchestre dans la fosse.
Voilà.
Formidable.
Alors, je précise, ça, c'est dans Tête de Linotte, hein, ouais. Toujours à l'ABC, en 1957, votre deuxième grande opérette, donc qui était une opérette voilà, parisienne des faubourgs,
oui,
on peut dire.
Oui, absolument. Mais c'était avec...
avec Jean-Richard,
avec Jean-Richard, avec Jean. Jean qui n'aimait pas du tout l'ail, il ne supportait pas l'ail, je vous dis ça pour ça. Et à un moment donné, il mangeait un cornichon. Il était censé manger un cornichon qui était en pâte d'amande. Et un joyeux luron de la technique avait rempli ce cornichon d'ail.
Aïe, le pauvre.
Aïe, 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 c'est le cas de le dire. Il avait croqué, j'ai cru qu'il allait le tuer. Hein. Aïe, 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 aïe. Il était fou de rage. Oh là.
Alors ça, c'était donc à l'ABC en 1957, deuxième grande opérette. Et là, cette fois-ci, vous aviez le premier rôle. Hein.
Ah oui,
d'ailleurs,
oui,
Tête de Linotte, oui. C'est vous dans la pièce. Hein.
Oui, ça va très bien.
on peut dire que Vinci et Lopez l'ont écrite un peu pour vous, cette opérette-là,
oui.
Sur mesure.
Ah oui, oui, sur mesure. Là. Oui,
c'est
oui,
du sur-mesure.
Oui, oui, hein. Oui, ça, c'était du sur-mesure. Après la route fleurie, quoi.
Voilà. Et donc, la rencontre avec Jean-Richard, ça a été sympathique.
Ah,
vous
oui,
êtes bien
oui,
entendu.
Ah, ouais, c'était... Oui, oui. On n'avait pas de problème avec Jean. Bon, Jean, on se retrouvait le soir avec sa femme dans un bistrot. Annick Richard, tu es une fille ravissante. C'était une Miss Cinémonde.
Ah, oui,
oui, oui. Très belle, magnifique. Mais elle avait... Elle avait une chose, c'est qu'elle s'endormait très facilement.
Même pendant le spectacle.
quand on arrivait dans le petit restaurant où on allait, on la voyait de dos, la tête appuyée sur son petit doigt, et elle dormait avec ses longs cils. Elle était magnifique, magnifique.
Bref. Alors, c'est nouveau succès, hein.
Oui.
Ça a duré longtemps,
oui,
à Paris.
Ah oui, oui, oui. On a fait deux saisons, je pense, à Paris, puis on est parti en tournée.
Vous êtes parti en tournée, ouais. Voilà.
Et la tournée, c'était, on faisait bien 60 km des tours pour aller bien manger, quoi.
Ah oui, c'est ça.
Avec Jeannot. Ah bah oui, Jean, il aimait bien manger.
Mais alors, ça veut dire une nouvelle fois, nouvelle opérette, ça veut dire une nouvelle fois pendant un an ou deux, plus de tours de chant. C'était,
plus de tours de
c'était
chant.
Le principe.
Non,
hein,
non,
voilà.
Non. Mais ça ne m'empêchait pas. Hein. Ouais. Moi, j'ai toujours travaillé. Mais c'est pas possible, ça. Parce que bon, si on avait une relâche le lundi. Hein,
ah, parfois, vous allez chanter le lundi?
Bah évidemment.
Ah oui.
Avec Mariano, c'est comme ça que j'ai connu Mariano.
Oui.
Mais oui.
Ah oui.
On avait le même jour de relâche. Alors que lui, il jouait le chanteur de Mexico. Je ne l'ai jamais vu dans le chanteur de Mexico. On avait le même jour de relâche.
J'avais le même jour de relâche. Je suis été au Châtelet, vous à l'ABC. Et vous vous retrouviez?
Et on se retrouvait parce qu'on était chez Pâté Marconi tous les deux.
Oui, parce qu'avec Mariano, vous aviez déjà sympathisé, donc depuis La Route Fleurie,
voilà.
Et ensuite le tournage,
voilà,
du chanteur de Mexico.
Parce que vous avez des tours de chant lundi, jour de relâche, voilà. Pour pas s'ennuyer.
Alors justement, Mariano, on y arrive, puisque l'opérette suivante, c'est Visa pour l'amour, avec Mariano. Alors, vous étiez très amis avec Mariano. J'ai lu que c'était, de tous vos camarades de théâtre, celui que vous avez gardé le plus dans votre cœur. Hein.
Mes 3 ans passés avec Mariano, ça a été vraiment formidable. Ouais. On s'est compris comme la roue en foire. Parce que c'était lui le comique. Hein. Il était drôle, il m'a fait rire.
Oui.
Parce qu'il était un peu tête en l'air. Hein. Alors, ça lui est arrivé de rentrer sur scène avec deux chaussures de couleurs différentes. Vous voyez.
Mais alors, avant même de faire Visa pour l'amour, dans vos jours de relâche, vous faisiez quoi avec Mariano? Vous alliez vous balader?
On allait faire des galas. Alors, moi, je faisais la première partie, et lui, donc, la deuxième partie. C'est comme ça qu'on s'est connu, parce qu'on avait la même firme de disques, et on s'est dit, pour ne pas s'ennuyer le lundi, jour de relâche, c'est ridicule, hein, allons faire des galas. Donc, on est allé faire des galas, et c'est comme ça que j'ai connu Loulou. Et c'est comme ça qu'il a dit, écoute, je ferais bien une opérette avec toi, mais j'ai peur des marianistes.
Ah, les fameux marianistes.
Il y en avait une qui s'appelait...
Il veille toujours, les marianistes.
Il y en avait une qui s'appelait Chimène, il ne fallait pas toucher à Mariano. Oh là là là. Elle dit, mais toi, tu seras un peu, pour elle, comme un copain de régiment. Et c'est vrai. Et on se comprenait comme la roue en foire. Avec Loulou, vraiment. C'est avec lui que j'ai fait le plus de... J'ai été voir des expositions, de
alors,
peinture.
C'est ça. Il s'intéressait à beaucoup de choses. Alors, c'était pas quelqu'un du tout de superficiel.
Pas du tout.
Il aimait, c'est ça, les grands artistes, etc. Ouais. Il allait voir les musées. Ah,
absolument,
il vous entraînait avec lui.
Avec lui.
C'est vrai.
Ah, oui. Et puis, il était censé être peintre dans Visa pour l'amour. Et au début de l'opérette, il dessinait au fusain, des trucs comme ça. Et tous les technos du théâtre, ils étaient là. Ils attendaient qu'il ait fini, qu'on baisse le rideau pour aller faucher le dessin que Mariano avait fait. Ah oui, il dessinait bien. J'ai une très jolie peinture de lui, d'ailleurs.
Alors, comment ça s'est fait, justement, Visa pour l'amour? Ça a été écrit, là, on pourrait dire, sur mesure pour vous deux.
Oui, absolument. Hein, oui.
L'idée de départ est venue de Lopez et Vinci.
Vinci, oui. Et alors, Vinci, il était extraordinaire parce qu'il lisait donc le rôle de l'un et de l'autre. Et puis... quand il voyait que ça ne collait pas un petit peu, quand il voyait à nos têtes que ça ne nous plaisait pas, il partait dans un délire. Il oubliait ce qu'il avait écrit, il partait. Et puis là, tu comprends, il faudrait que ça arrive.
Ah
il
oui.
Vendait bien la marchandise. Mani, il était magnifique, très bon pour ça. Et puis on a dit oui, et puis on a été très heureux dans le Visa pour l'amour.
Alors ça a été créé à la Gaîté Lyrique en décembre 1961, donc ça représentait une différence de style d'opérette par rapport à l'ABC, le fait d'être à la Gaîté Lyrique, ou c'était assez proche?
Nous, c'était une opérette.
Un grand spectacle.
Un grand spectacle, oui, c'était un plus grand théâtre.
C'était quand même plus grand, voilà, c'est ça.
Un magnifique plateau, il y avait encore le plateau tournant.
C'est ça.
C'était fantastique, hein. Magnifique. Oh, non, c'était un beau théâtre. Et en fait, on aurait dû jouer à la Porte Saint-Martin. Et Jean-Jacques Vital, qui était le producteur, a eu les décors d'Oscar.
Oui.
Oscar.
De Funès.
Qui avait été joué par Pierre Mondy et je ne sais plus qui. Et ils nous ont demandé de ne pas aller à la Porte Saint-Martin, mais d'aller à la Gaîté Lyrique pour qu'il puisse jouer Oscar, que c'était une pièce qu'il voulait reprendre avec un gars qui s'appelait De Funès.
Voilà, c'est
extraordinaire. Extraordinaire.
Vous aimiez bien la gaieté lyrique, vous sentiez bien dans ce théâtre.
Ah oui, oui, c'était beau le théâtre.
C'était quand même un peu le temple de l'opérette à Paris.
Oui,
c'était
Comment elle s'appelait, Germaine?
Germaine Roger.
Voilà, Germaine Roger.
Oui. La grande patronne.
Ah, oui, absolument, c'était la super patronne, quoi, en fait. Hein.
C'est ça, de la gaieté lyrique.
Oui.
Donc ça a duré 3 ans.
Oui, parce qu'on a fait tournée sur tournée. Hein. Alors, parce qu'on arrivait dans les années 60, attention.
C'est ça.
Les 60s.
Le twist.
Le rock et tout, attendez. C'est que c'était Johnny Hallyday et Sylvie Vartan.
Ouais.
Eh bien, nous, on était en tournée en même temps que...
Mais il faut dire que Lopez avait quand même eu l'idée de mettre dans l'œuvre une chanson qui s'appelait Twist contre Twist. Donc...
Mario nous dit, je suis fatigué, Nini, je suis fatigué, c'est trop fatigant ça, c'est trop fatigant, Nini, ça. Tu me tues, Nini.
Ah oui.
Ah oui, oui.
Vous aimiez bien le twist, les yéyés, ça vous dérangeait pas? Parce que c'était un peu la guerre entre les yéyés, l'opérette.
Oui, justement, c'est ce dont je voulais vous parler, c'est que nous étions en tournée en même temps que ces gens-là qui étaient vraiment au top niveau et qui avaient fait descendre pas mal d'artistes qui sont restés dans l'oubli d'ailleurs.
Ah
c'est
ouais.
terrible. Et ben, mais nous, ça ne nous a pas dérangé. On faisait plein partout.
C'est ça. Et dans la distribution, alors il y avait un certain Jacques Mareuil. C'était le début d'une longue histoire.
Oui, absolument. Il jouait le secrétaire de mon père dans Visa pour l'amour. Ça y est, je le revois.
Alors, on va retrouver Jacques Mareuil tout à l'heure dans d'autres opérettes et quantité de chansons qu'il a écrites pour vous.
Oui.
Mais on va peut-être d'abord vous écouter avec Bourvil dans le Tcha-Tcha-Tcha des Égoutiers.
Et flaquer, flotter jusqu'aux genoux. Nous nous promenons dans les égouts. Nous sommes au frais pendant les mois d'été. Et l'hiver, nous sommes abrités. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige là-haut. Nous nous baladons au bord de l'eau. C'est plus pittoresque et beaucoup moins banal que Venise avec son grand canal. Qu'un riche financier est plus malheureux qu'un savetier.
Ah oui? Mais le savetier n'est pas plus avancé, car les cordonniers sont mal chaussés.
On voit peu de corses chez les corsetiers.
Pas de papes chez les papetiers.
Oui, oui.
Mais il y a toujours et dans tous les quartiers des égouts pour tous les égoutiers. Joli métier que celui des gouttiers. Égoutier, a le joli métier des gouttiers.
C'est à moi maintenant. C'est trop terre à terre d'être terrassier. Et ça jette un froid d'être glacier.
On voit tout à noir quand on est charbonnier. On se barbe quand on est barbier.
Nous connaissons tous la vie du percepteur et la triste vie du ramoneur.
Si vous connaissiez celle de l'épicier,
vous seriez heureux d'être égoutier.
Égoutier, égoutier, à le joli métier.
Visa pour l'amour, c'était en 1961, Luis Mariano et Annie Cordy, encore un grand succès qui a marqué l'histoire de l'opérette. Annie Cordy, vous me disiez à l'instant que dans la distribution, il y avait aussi un grand fantaisiste de théâtre et de cinéma qui était Rélis.
Rélis, oui, voilà. Qui faisait beaucoup de cinéma. Et puis, il avait été cuisinier quelquefois, il nous apportait de l'aioli. Je peux vous dire que ça sentait pas tellement.
Heureusement que Jean-Richard n'était pas là.
Voilà.
On va terminer cette première émission sur vos succès d'opérette et de comédie musicale. Alors avec une œuvre qui est moins connue aujourd'hui parce que les Lopez sont restés un peu dans toutes les mémoires. Ça a été de très grands succès. Oui. Mais ça a été aussi un succès, mais on a un petit peu oublié. C'était Wawa. Et pourtant, le titre est assez amusant.
Oui. On a cherché longtemps pour avoir le titre. Oui.
Wawa, c'était donc une opérette à grand spectacle donnée à l'Alhambra avec Bourvil. Il en est quand même resté une chanson célèbre de Bourvil qui est Les Abeilles.
Les abeilles.
Alors, c'était quoi cette opérette Wawa? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette aventure?
Dans cette galère. Mais comme j'avais déjà travaillé avec Bourvil, il m'a dit, tiens, j'ai des copains qui m'ont écrit une opérette. Il y a un rôle qui serait chouette pour toi. J'ai dit, pourquoi pas? Bon, d'accord.
Ah, c'est lui qui vous a fait venir.
Donc. Oui. Et puis, moi, ça me faisait plaisir de retravailler avec lui. Et l'idée était très bien, l'idée de l'opérette. Et je me suis dit, pourquoi pas? Alors, l'Alhambra, qui était un théâtre magnifique. Uh-huh. Un plateau, il fallait une moto pour faire le...
Ah, c'était encore plus grand que la Gaîté Lyrique, là.
Ah oui, non. Mais c'est plus un plateau en longueur.
Oui.
Tandis que la Gaîté, c'est... C'était plus rond, plus ramassé. Et puis le plateau tournant, ce qu'on n'avait pas à l'Alhambra. Et on a joué quand même une saison.
Une saison entière,
Une saison entière. Et puis on est parti en tournée.
C'est ça. Alors, Wawa, donc c'était Bourvil qui vous a fait venir. Et puis c'était également, pour la musique, le partenaire de toujours de Bourvil, qui était Étienne Lorrain.
Un amour d'homme, quel amour, cet Étienne Lorrain. Ouais. Il était resté ce qu'il avait toujours été, un musicien, mais il n'avait aucune
prétention.
Ouais. Il était formidable. Et Gabi Wagenheim, pareil, vraiment, c'était deux personnes très belles. Voilà. De belles personnes.
On peut dire que Bourvil, ça a été un de vos grands amis du spectacle avec Mariano.
Absolument, c'est oui. Ouais. Oh, Bourvil était marrant parce qu'il il adorait raconter des blagues. Et il riait. Il dit, on ne connaissait jamais les chutes. Il rigolait tellement.
Ah, il riait avant.
Il riait. Mais alors, ce qu'il était formidable, parce que c'était quand même un comédien sublime, il pouvait nous faire rire, vraiment, éclater de rire. Il vous prenait la main, il vous regardait. C'est fini. On n'avait plus du tout envie de rire.
Ah oui, c'est ça.
Il y avait cette grande force
ce double talent,
de passer. Ouais. De la grande rigolade. Il se prenait par le fond de la culotte dans Wawa. Hein. Ouais. Il arrivait avec une grosse valise. Il la mettait devant ma porte, soi-disant ma porte. Et je n'ouvrais pas. Alors, il était contre la porte. Et il descendait. Et puis, il se remontait par le fond de culotte. Enfin, bon. Mais c'était formidable.
Il faut dire que... contrairement à l'époque de la Route Fleurie, c'était devenu, alors là, une immense star. Au moment de Wawa, c'est à peu près l'époque des grands succès, notamment de la Grande Vadrouille.
De Funès, je pense bien. Oui. Et puis ça a continué après. Hein. Puis, et il me disait toujours, tu verras, Annie, quand tu seras au cinéma et que tu auras des magnifiques metteurs en scène devant toi. Parce que nous, on n'avait pas. Dans l'opérette, on n'était pas toujours gâtés comme metteurs en scène. Ouais. Mais c'est vrai, parce que bon, ils écrivaient, les compositeurs, auteurs écrivaient, ils disaient là, c'est un peu. Ça baisse un petit peu, mais ça fait rien. Dédé éclatera de rire, Dédé Bourvil éclatera de rire, et Annie, elle fera bien la roue, je ne sais pas, ou elle marchera à quatre pattes, voilà.
Ah, c'est ça. Voilà. Ouais. Il fallait faire une série de numéros pour tenir le public, tout reposer sur le jeu des acteurs. En fait,
le jeu des acteurs,
ouais, c'est
beaucoup,
ça.
Oui.
Café,
tabac,
qui veut goûter mon mocha? Café,
tabac, qui veut un cigare extra?
Café,
tabac,
après merveilleux repas,
y a bon café, en fumant fameux tabac.
Moi je fais du café qu'on a, c'est le meilleur café qu'on a.
Moi je vends tout ce qui se fume, et même à l'occasion j'allume.
Mais pour bien goûter mon café, il faut enfumer la senteur.
Comme mon tabac pour l'apprécier, faut être de bonne humeur.
Café,
tabac,
qui veut goûter mon mocha? Café,
tabac, qui veut un cigare extra?
Café,
tabac,
après merveilleux repas,
y a bon café, en fumant fameux tabac.
Si tu n'as pas bu café chaud,
si tu n'as pas fumé tabac,
dis-lui pas grand chef de dos,
la doudou, dis-lui toi gaga.
Mais si tu n'as bu café chaud,
si tu n'as fumé bon tabac,
quand doudou allez au doudou,
dis-lui pas rap la plat.
soir à Plapla.
Dieu que c'est
plein. Tu y pars à Plapla.
Café.
D'abord.
Qui veut goûter mon mocha? Café.
D'abord. Qui veut un cigare extra?
Café.
D'abord.
Après le merveilleux repas,
il y a bon café.
En fumant fameux tabac.
Hé, Ali.
Oui.
Est-ce que ton café, il est chaud?
Il est bouillant.
Eh ben, tu m'en feras refroidir une tasse.
Quelle est belle. Tu peux rire.
Annie Cordy en duo avec Bourvil dans Café Tabac, un extrait de l'opérette Wawa de Gabi Vanegheim et Étienne Lorrain, enregistré en 1965 avec l'orchestre d'Armand Migiani.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et c'était donc là l'émission du 29 mai 2010, le premier des deux entretiens que j'avais eu avec la si sympathique Annie Cordy pour évoquer l'ensemble des opérettes et des comédies musicales qui avaient jalonné sa carrière, ce qui m'avait paru, je l'avoue, plus intéressant peut-être pour France Musique que de revenir sur ces tubes bien connus et fort joyeux que furent La Bonne du Curé et autres Tata Yo-Yo. Alors, deuxième volet donc de cet ensemble, c'est l'émission du 5 juin 2010, toujours donc évidemment avec la chère Annie Cordy.
Punch, ça tapait, ça claque, rapide comme un flash, je passe à l'attaque, punch, claque, flash, punch. Plus rien ne me stoppe, ni le plus beau speech, ni la vue d'un Colt, punch, stop, speech. Je vis mon aventure sur le ring de la vie. Foncer, c'est ma nature. Je fais kick, punch, c'est comme à la boxe, faut gagner le match. Et c'est fantastique, punch, box, match, punch. Une chanson me dope, pas besoin de scotch, ni de porte-flip, punch, top, scotch, punch. Faut avoir du pep, comme un prototype. J'ai mon double bang, punch, petit. Des coups, bien sûr j'en donne, mais j'en reçois aussi. Je fais quand il me sonne. Punch, dès que j'ai dit go, ça passe ou ça craque. Mais j'ai payé cash, punch, go, crack, punch. Ça tape et ça claque, dès le coup de gong, je passe à l'attaque, punch, clac, gong, punch. Et au dernier round, mes ennuis en bloc, je les mène en coup, go, punch, crack, catch, crack. Match, punch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, out. Car pour gagner, il faut le moral, avoir un cœur phénoménal. Un oiseau qui chante dans la tête et les ressorts dans les gambettes. Du caoutchouc dans les genoux, mais il faut avoir avant tout des punch.
Annie Cordy, heureux de vous retrouver.
Merci.
Avec toujours autant de punch. Hein.
Oui, bon, on essaye. Hein.
Bon, ça, ce n'est pas ce qui vous manque, on envie le vôtre. Mais vous m'avez dit, c'est quand même pas facile à chanter. Hein.
Ah, punch, elle est dure. Hein. Je la donne dans mon tour de chant, mais elle est dure. Hein.
Ah oui. Bon, voilà. Alors, je rappelle aux auditeurs qui n'étaient pas là la semaine dernière, on évoque donc ensemble les opérettes et les comédies musicales qui ont ponctué votre vie. On avait fini avec Wawa en 1965,
avec Bourvil
la semaine dernière, et là on reprend 2 ans plus tard avec Pique et Pioche, c'est le nom de cette comédie musicale de 1967. Comédie musicale, opérette.
Oui, opérette.
Vaudeville.
Vaudeville, voilà. Ça se jouait au Théâtre des Nouveautés, qui est un tout petit théâtre.
Hein. Ouais, ouais.
Alors, passer de l'Alhambra aux Nouveautés.
Ah oui, c'était un contraste.
Oui, c'est un contraste.
Mais alors, c'est une aventure, il faut le dire, en particulier avec quelqu'un qui a été aussi un de vos grands amis, comme Bourvil, comme Mariano, qui était Darry Cole.
Darry Cole, oui. Et Darry Cole, un musicien, sublime musicien, magnifique.
Et comment est-ce que vous l'aviez connu, Darry Cole, vous?
Darry, c'est quand on a c'est Jacques Mareuil et Raymond Massy qui avaient écrit
le livret de
le livret, Darry Cole, ça peut être chouette, et voilà. Et on s'est retrouvé, et Darry a fait la musique. Bon, vraiment, moi j'étais... Mais il était drôle, Darry. Et quand on est invité chez Darry, vraiment... Dès qu'on avait sonné à la porte, on devait jouer aux puces. Vous savez comment ça s'appelle, les petites rondelles, comme ça. Il fallait aller sur les petites puces pour arriver jusqu'au salon, et puis les petites puces pour arriver jusqu'à la table. C'est complètement fou, hein. Et puis on avait droit au concert de brosse aussi.
Ah oui?
Ah oui, il avait des brosses à dents, des brosses à chaussures, des chaussures, et il dit écoute ça, et là, jusqu'à 3 pour le matin.
Hein. Ah oui?
Ah oui, oui, oui. C'était un fou furieux. Quand on arrivait dans un théâtre, par exemple, en province, et qu'il y avait un orgue qui traînait dans les coulisses, on avait droit à un concert d'orgue. C'était sublime, magnifique, vraiment.
Comment ça s'est fait? Il a composé au fur et à mesure? Vous êtes vu pour les chansons?
Oui,
pour
Il s'est vu avec Mareuil et Vinci, bon, bien sûr. Oui, non, mais c'était vraiment un très, 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 très beau musicien, très bon. Puis on avait une bonne équipe, et on avait Francis Linel, qui était un bon chanteur, très bon chanteur. Ouais. Laurence Badi, la rigolote Badi. Allez, ça va comme ça. Oui, on jouait ça donc aux nouveautés. Comme Dari adorait jouer, il allait jouer au billard ou les jeux au casino, peu importe, il allait jouer. Et il rentrait quelquefois très tard, et quelquefois il passait la nuit et le lendemain. Et très souvent, moi, je l'ai retrouvé en coulisses, déjà avec son costume de la première scène.
Ah oui. Hein,
en imperméable, comme ça, ronflant, en pouvant plaire.
Il sortait directement de...
Il a joué tout, il a joué sa voiture, il a acheté une nouvelle voiture, et puis il prenait une crise de... Il balançait ses clés, tiens, je joue ma voiture, hop, terminé, plus de voiture. Oh, c'est terrible.
Vous êtes resté amis toute la vie, hein,
ah, oui, avec Dari Cole. Ah oui, oui, ouais. Dari et Roland, sa femme, sa femme que j'ai eue dernièrement, d'ailleurs. Non, non, formidable.
Et est-ce que ça a été un succès, Pique et Pioche?
Pique et Pioche, oui, ça a très bien marché, Pique et Pioche, oui, absolument, oui. Pique et Pioche, puis c'était amusant, c'était Robert Thomas qui avait écrit avec Jacques Mareuil, qui avait fait la mise en scène. Non, c'était une bonne pièce, quoi, qui se tenait.
Alors, on va enchaîner d'ailleurs, parce que peu après, donc en 1970, nouvelle rencontre, si on peut dire, avec une autre grande figure de l'humour, parfois l'humour un peu grinçant d'ailleurs, français, c'était Pierre Doris.
Ah oui, Pierre.
Dans un autre spectacle, au titre en forme de calembour, hein, Indien vaut mieux que deux tuileries. comment ça s'est passé, cette œuvre-là?
C'était Jean Le Poulain qui avait trouvé ça. Vous connaissez Jean Le Poulain?
Oui, bien sûr.
Alors, il avait trouvé ça, Indien vaut mieux que deux tuileries. Et c'était lui qui nous avait mis en scène. Et avec Doris, on s'est très bien compris. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais eu de problème. Avec
personne.
Non. Même quand je faisais des comédies musicales avec plein de danseurs, de danseuses, comme j'étais toujours en avance pour les répétitions.
Ah voilà.
Mais c'est bien, comme quand je me retourne, quelquefois.
C'est bien que ceux qui commencent la carrière entendent ça. Ah, voilà, ça c'est une des clés du métier.
Quelquefois je me retournais et je vois une fille qui souriait pas, qui avait l'ensemble. Excusez de s'ennuyer, comme c'est pas possible. Je sortais de ça, je dis écoute, prends-toi deux jours de vacances. Ah, je peux pas. On vous demande deux heures de spectacle, soyez souriante. Bon, et alors, dans cet Indien vaut mieux que du Touloura, on était avec Gérard Chambre, avec lesquels on chantait une balade un petit peu style cowboy. Quoi. Ça, moi, je jouais Calamity Jane là-dedans.
Voilà, c'est là que vous avez enregistré d'ailleurs cette chanson Calamity Jane.
Voilà. Et puis, il y avait Madeleine Vernon, qui était la femme de Jacques Mareuil, et qui jouait la Vierge au grand pied. Et alors, elle était attachée à un totem, mais elle disait, elle devait dire, je suis la Vierge au grand pied. Et un jour, elle s'est trompée, elle a dit, je suis la Verge au grand pied. Je ne vous dis pas, ça a été l'horreur pour reprendre le tout. Les gens étaient pliés en deux, et nous aussi. Hein,
bon. Ah oui, dans le genre Pierre Doris, là, j'en retrouve un dans le genre humour noir. Alors, un mot de Pierre Doris, c'est très beau, un arbre dans un cimetière, on dirait un cercueil qui pousse.
Voilà, hein, c'était peut-être tout lui.
Ou encore, l'homme propose, Dieu dispose, la femme s'interpose.
Oui,
il en a fait beaucoup.
Oh,
comme
beaucoup, voilà. Oui. Et le théâtre a failli prendre feu parce qu'on avait...
C'était dans quel théâtre, Indien vaut mieux que deux tuileries?
À l'Européen.
L'Européen. C'est fou parce qu'on évoque aujourd'hui un certain nombre de théâtres qui ont tous disparu.
Oui, hein.
On a parlé de l'ABC, on a parlé de l'Alhambra, on parle de l'Européen. Il reste les nouveautés.
Moi, je dis très souvent, où Annie Cordy passe, le théâtre trépasse.
Oui, c'est ça.
Voilà, mais c'est vrai. Mais il était sympa, ce petit théâtre.
C'était bien, l'Européen.
Ah oui, c'était un beau petit théâtre. Et avec Gérard Chambre, j'ai rejoué après, on prenait des crises de fou rire. Pff, oh là là. Il y avait Yves Pignot, qui était de la Comédie Française, et qui jouait Sitting Bull.
Ah oui.
Et puis, c'était mignon, parce que c'était un petit peu... comment dire, guignol pour les enfants. Je me souviens qu'à un moment donné, je disais, mais où il est passé cet Indien? Où il est passé Sitting Bull? Et un jour, il y a un petit garçon qui s'est levé et qui a dit, il est parti par là, Annie. C'est mignon, c'est adorable comme tout.
Pas question d'être amoureux, faut pas jouer avec le feu, on sera copain, copain.
Je ferai l'effort inhumain de ne te prendre que la main.
Non, rien. Copain, copain, ce n'est pas une raison, parce que tu es beau garçon, pour que je tombe comme ça dans tes bras.
Tu seras donc un bloc de glace, tandis que moi, je ferai de bois.
Je ne t'en demande pas tant, on peut se plaire en étant seulement copain, copain.
Si je te dis tu es jolie,
je penserai il est poli, c'est tout. Copain, copain.
Pour éviter à mon cœur qu'une flambe, je ne regarderai ni tes yeux ni tes jambes.
Tu ne regarderas rien,
mais je n'en penserai pas moins.
Copain, copain.
Si je suis sentimental,
je n'y verrai pas de mal. Mais pour la démonstration, pas question.
Tu ne dirais pas ça si l'on s'était connu sur une île perdue.
En tout cas pour le moment, nous ne sommes pas sur l'océan. Restons copain, copain.
Puisque je ne suis pas le plus fort, il faut bien que je sois d'accord.
Pierre Doris et Annie Cordy dans Copain Copain. Alors c'était extrait donc de Indien
vaut mieux que de Tudora.
Western musical en 13 tableaux et un cheval.
Oui, c'est vrai. Et ben le cheval, il a pris feu un soir.
Le cheval? Ouais. Oui, c'était pas un vrai.
Non, c'était pas un vrai. Alors, il était dans les coulisses et d'un coup, on voit de la fumée qui nous arrive, on les occupe à chanter. D'un coup, il y a une femme dans le théâtre qui crie « Maman, maman !» Elle était au balcon et sa mère devait être en bas. « Maman, maman, attention, il y a le feu, sors, sors !» Alors nous, avec Gérard Chambre, on disait « mais non, madame, tout va bien, tout va bien !» Oh, mais la fumée qui arrivait de partout. Doris, lui, était déjà au 7e étage, il était parti. Enfin, bref, on a fini par éteindre ce cheval. Hein. Voilà.
Alors, c'était en 1970. Et puis alors, 2 ans après, là, on arrive à un immense succès. C'est peut-être le plus important, je ne sais pas, avec Visa pour l'amour de votre carrière de théâtre, si on peut dire.
C'est une grande comédie musicale.
Élodolie, c'est en 1972. Mais l'histoire avait commencé déjà au temps de Wawa, justement, en 1965.
Pendant que je jouais Wawa avec Beauvais à l'Alhambra, un jour, on me dit, il y a un monsieur américain qui voudrait te parler. Monsieur Michael Stewart, je dis, je vais le voir ce monsieur alors. Je dis, bonjour monsieur, I am Michael Stewart, je suis Michael Stewart, avec son accent broken French. Hein. Ouais. Je suis l'auteur de Hello Dolly, quel gros succès. Je dis, ah oui, ah bon, je ne sais pas. Il dit, et quand Dolly, c'est vous et personne d'autre.
Ah oui, il avait pensé ça tout de suite.
Vous et personne d'autre. Ben, je dis, écoutez, donnez-moi le script. Il y avait le scénar et il avait le 33 tours.
Ouais. Hein, avec Barbara Streisand.
Non, ça c'est le cinéma.
Ah oui, pardon.
Carol Channing au théâtre. C'est elle qui avait créé ça à Broadway. Donc il m'a donné ce 33 tours. Et je l'écouterai, je me suis revenu dans 2 jours, si vous voulez. Yes, I come back, ok. Alors j'ai écouté, je dis, oh là. Cette femme qui est veuve et qui est marieuse. Parce que c'est tiré d'une pièce, hein. Pas fou les Américains. La grande différence avec l'opérette, je pense que c'est ça. L'opérette, c'est écrit par des auteurs, bien sûr, mais qui inventent des choses. Mmh. Ils ne partent pas d'une chose qui est déjà établie, qui a déjà fait un succès au théâtre, en tant que pièce de théâtre. Mmh. Hello Dolly, ça s'appelait La Marieuse. Ça a été une pièce qui a été jouée. Et Michael Stewart a fait l'adaptation pour la comédie musicale. Et Jerry Herman, qui était un immense compositeur, a donc écrit la musique. Donc, j'ai dit non, moi ça ne m'intéresse pas, monsieur, cette marieuse qui veut marier tout le monde, et en fait, elle veut se marier, elle surtout, non, c'est pas un rôle sympathique. Oh. Il m'a dit, ça ne fait rien, je reviendrai. Et il est revenu.
Plusieurs fois.
Oui, ça a duré 7 ans pour que je dise oui.
Ah oui.
Et j'ai dit oui, parce que c'était un ami à moi qui était directeur au théâtre de Strasbourg, qui s'appelait Raymond Vogel, qui m'a dit, Annie, il faut absolument que tu joues Hello Dolly, il n'y a pas à discuter, il faut que tu joues Hello Dolly.
Et, oui.
Et à ce moment-là, parce que quand ce Michael Stewart est venu pour la première fois, on écrivait des choses pour Annie Cordy.
Ben oui, toutes les opérettes dont on a parlé auparavant, elles avaient été écrites pour vous, bien sûr.
Et moi, qu'est-ce que j'avais à faire, que ça avait été joué par qui on voulait.
Ouais.
Et j'ai fini par dire oui, à condition de débuter en province.
C'est donc, ça, toujours l'idée de que le spectacle soit un petit peu rodé aussi, voilà, peut-être avant d'arriver à Paris, d'ailleurs selon le modèle américain d'une certaine
voilà.
façon.
Et on a eu un chorégraphe américain, Paul Glover, qui était extraordinaire. Pas question de tricoter, parce que la plupart du temps, les danseurs, les danseuses et les choristes, quand ils avaient 2 minutes, elles s'asseyaient par terre, elles tricotaient. Lui disait « no tricot, no tricot ». Alors quand il disait « 5 minutes breaks, 5 minutes de repos », alors on allait s'asseoir et il faisait « no Annie ». Mmh. Pas pour toi. Toi, tu répètes le pas que tu n'as pas connu tout à l'heure. Et moi, pendant 5 minutes, je répétais mon pas pendant les autres. La faisait belle, voilà.
Vous l'avez créé où, en province ?
À Nancy. Un théâtre magnifique et une ville magnifique. On a fait Nancy, Strasbourg, et puis on est parti en tournée. Et puis
l'adaptation était signée en partie par quelqu'un qu'on retrouve souvent dans les grands succès d'opérettes de l'époque, qui était Marc Cab.
Marc Cab, oui. Hein,
c'était quel genre de personnage, Marc Cab, vous en rappelez
Oui, personnage, je l'ai pas beaucoup connu, je l'ai connu là, mais il avait fait beaucoup d'adaptations avant. Hein.
Oui, c'est Marc ça, et des quantités.
Des quantités d'adaptations, voilà. Oui. Mais, et Collard.
Et Colas. Et
Jacques.
Et André Ornaise.
Et André Ornaise, qui est de ma réputation. Oui, 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 absolument.
Le grand parolier.
Le grand parolier, oui, oui, oui.
Ça a été un de vos plus beaux souvenirs de scène. Donc,
c'est magnifique.
Mogador, un succès triomphal.
C'était beau, c'était magnifique. D'ailleurs, je réécoute quelquefois le disque parce que Jerry Herman a écrit une partition. Parce que même quand on ne jouait pas, même quand on ne chantait pas, il y avait sous-jacent toujours une musique. Et de la musique, on partait dans la chanson.
C'est ça.
On retombait, il y avait les applaudissements, mais on parlait et déjà, il y avait l'autre musique qui était en tout. Oh, une partition.
Ouais, ouais.
Ce n'est pas... L'opérette, c'est une chansonnette, on s'arrête, on parle. La chansonnette, on s'arrête, on parle. À part les
Enfin, sauf les grands classiques,
les grands
le
classiques,
Coq,
Offenbach. Attention, hein, c'est autre chose.
Ouais.
Eh bien, Jerry Herman, c'était ça. Et Hello Dolly, c'était ça.
On va écouter justement, si vous voulez, peut-être le final. Mmh. Parce que ça m'amuse qu'on vous entende dialoguer avec Jacques Mareuil.
Ah, bon, Jacques.
Qui a été quand même votre grand parolier pendant des années et des années. Qui était lui-même donc comédien, chanteur, et que vous aimiez particulièrement.
Ah, beaucoup.
Voilà.
Beaucoup.
Et qui a été, d'ailleurs, je le dis, en plus, je crois, président de l'Académie nationale de l'opérette.
Alors, oui, oui, oui.
Double raison de lui rendre hommage en votre compagnie, Annie Cordy.
L'argent, 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 comme disait feu mon cher Marie-Ephraïm. L'argent, c'est comme le fumier. Ça ne vaut pas une crotte. À moins de le répandre partout pour aider tout ce qui est jeune à pousser et à vivre. C'est en tout cas l'opinion de la deuxième Madame Van de Gelder.
Hello Dolly, oh hello Dolly, c'est si doux d'avoir enfin la femme qu'on aime. Je vous l'avoue, Dolly, avec vous, Dolly, tout mon être va connaître une joie suprême.
C'est bien, Horace.
Ah.
suis bien, Horace, mon cœur enfin trouvé sa place. Quand Dolly s'attache, c'est pour
une femme merveilleuse.
Wawa, c'est un clin d'œil au producteur qui est venu vous voir pendant Wawa, Nicordi.
Merci Benoît de m'avoir passé ça.
Ah, c'est une
merveille. Grand plaisir, oui.
Mais au fond, Hello Dolly, vous me disiez, c'est, si vous deviez reprendre une de ces œuvres que vous avez créées, ce serait celle-ci.
Ah oui. Ah, et oui. Alors, mon mari, que j'ai perdu depuis un moment. Bien, mon mari, quand j'ai commencé Hello Dolly, il me dit, t'en as pour ta vie durant Hello Dolly. Parce que c'est vrai, Dolly n'a pas d'âge.
Oui.
Elle n'a pas d'âge.
Oui,
vous pouvez être veuve à 20 ans, vous pouvez être veuve à 40 ans, 60 ans, 80 ans. Et c'est ça, c'est très important. Donc on peut jouer Dolly, il faut quand même pouvoir marcher, descendre l'escalier. D'accord, mais je veux dire par là, c'est un rôle...
Mais entre parenthèses, alors, parce que c'est un immense tube que tout le monde connaît, surtout dans la version que vous avez créée en France, mais est-ce que ça vous casse jamais les pieds quand dans les galas, les spectacles, les spectateurs finalement veulent réentendre La Bonne du Curé, Hello Dolly, et Tata Yo-Yo et tous les tubes de votre carrière?
Benoît, j'ai qu'à changer de métier.
Ah bah c'est bien, non mais
parfois, c'est comme les gens
parfois
qui
ceux qui ont eu des grands succès veulent pas qu'on leur en parle, vous savez.
C'est comme les gens qui vous disent, on veut pas signer un autographe, on veut pas vous dire bonjour. Ça veut dire quoi, ça? Eh ben, restez chez vous, soyez une bonne ménagère, faites bien la vaisselle, le linge. Il y a tellement de choses à faire dans une maison. Moi, j'adore m'occuper de ma maison. Mais j'aime bien être sur scène et puis pouvoir donner le maximum. Oh, et puis Dolly, c'était vraiment une chose fabuleuse.
Vous aimez les grandes fantaisistes de la comédie musicale américaine, je pense, quelqu'un comme Ethel Merman.
Oui. Et puis, oh, là, j'oublie les noms toujours, mais il y a des filles formidables. Oh,
Et les fantaisistes françaises qui vous ont précédé, comme Lily Fayolle, tout ça.
Ah, Lily Fayolle.
Vous aimiez bien
Oh là là.
Qui avait fait Annie du Far West.
Oui. Elle avait fait aussi, attendez, oui, Annie du Far West, avec Marcel Merkès. Voilà, oui. Ah oui, j'aurais bien aimé jouer, parce que, comme j'ai joué avec
Annie du Far West, oui, ça vous serait allé très bien aussi. Hein.
D'ailleurs, quelquefois, il y a des gens qui me disent, mais je vous ai vu dans Annie du Far West. Je dis, c'est pas moi, mais ça fait rien. Je prends tout sur moi.
Alors, on continue cette évocation des grands spectacles d'opérette et de comédie musicale d'Annie Cordy avec, on arrive bientôt aux deux derniers, là. D'abord, Nini la Chance, encore un immense succès, encore une œuvre qui vous ressemble, on peut dire, qui a été écrite par d'ailleurs un des derniers bons compositeurs d'opérette et de comédie musicale français en activité, qui est Georges Lieferman.
Oui, qui habite en Amérique, là-bas. Épousé d'Américaine. Voilà. Il aurait pu rester là, c'est idiot, il aurait été très bien.
Comment ça s'est passé, Nini la Chance? C'est encore du sur-mesure, là.
Oui, c'est Jacques Mareuil qui a écrit ça, qui a écrit l'histoire, qui est une très belle histoire, d'ailleurs, qui se passe la guerre, etc.
Entre France et Amérique,
puisque c'est Edward Mix qui était mon partenaire à l'époque. Après, on tournait cette Ironie Mills. Bon, et puis Guy Pierrot, qui jouait un militaire, qui marchait à la baguette, quoi. Je faisais la femme soldat, je grimpais, je m'entends. Enfin bref, j'en ai fait des tonnes là-dessus. Mais c'était Mareuil qui avait écrit ça, et il ne trouvait pas de titre. Mmh. Et un jour, Jacqueline, qui était à François, avait titré un article sur moi, Nini la Chance.
Ah, voilà.
Et Jacques me dit, Marie me dit, est-ce que tu peux pas appeler cette jeune femme qui t'a écrit ça? Je dis, oui, pourquoi? Je voudrais tellement qu'elle me laisse le titre. Ah oui. Elle lui a laissé le titre.
Et c'est comme ça que ça s'est appelé, Nini la Chance. Voilà, avec notamment la très jolie chanson, d'ailleurs, qu'on va écouter dans un instant, est presque un autoportrait musical, par certains côtés.
Oui. Et puis ça ira mieux demain, qui est un succès. Ouais. Je le donne encore dans mon tour de chant, ça ira mieux demain. D'ailleurs, à la fin de ma pièce de théâtre que je joue en ce moment, je leur dis, je vous laisse quatre petits mots, vous les gardez bien au fond de votre cœur, et quand ça n'ira pas très bien, vous direz comme moi. Ça, et toute la salle chante.
Ah oui.
C'est extra.
Même principe pour Nini la Chance que pour les précédentes opérettes et comédies musicales, c'est-à-dire une première en province, à Avignon, avant de faire la série à Paris.
Absolument, oui. J'ai Raymond Dufaux à l'opéra d'Avignon.
Voilà.
Oui, absolument.
Et ensuite, vous êtes installé donc au Théâtre Marigny.
Théâtre Marigny,
c'est encore une autre scène qui existe toujours. C'est là, vous voyez, vous détruisez pas tous les théâtres où vous passez.
C'était Elie Popesco qui était la directrice à l'époque.
Qui était la directrice, d'accord.
Ah, tu vas me couper ta frange parce que je ne vois pas assez tes yeux. Coupe-moi cette frange, je ne te vois pas tes yeux.
Ah bon, elle suivait de près les.
Elle m'aimait beaucoup.
Elvire Popesco. Alors, on vous retrouve tout de suite, Annie Cordy, dans Nini la Chance.
Chance, on m'a toujours appelée comme ça. Ma veine à moi, c'est de prendre la vie comme elle va. Nini, la chance, Nini, la chance. Quoi qu'il m'arrive, je me dis, c'était écrit. Et que ce soit sous le soleil ou sous la pluie, je suis ma route avec mon petit grain de folie. Nini la chance, Nini la chance. La vie est belle quand on y croit comme moi. Je revois encore mes 15 ans sous le ciel du Nord. Mes parents ne roulaient pas sur l'or. Quand je voyais la chance, moi
Nini Lachance, comédie musicale en deux actes sur un livret et des lyrics de Jacques Mareuil, musique de Georges Lieferman. C'était donc Annie Cordy, là, cette fois, en 1976.
Voilà. Oui, oui, oui. On avance doucement.
On avance, mais c'est même triste parce qu'on arrive à la dernière de ces grandes œuvres. Là, alors, on est passé complètement dans le genre de la comédie musicale. Hein. La première partie de votre carrière, c'était l'opérette. La deuxième partie, on peut dire, c'est,
oui, comédie musicale,
c'est plutôt la comédie musicale. Vous n'avez d'ailleurs jamais été tenté, pourquoi pas, vous-même, d'écrire, d'imaginer, de concevoir, au moins dans ces grands, une comédie musicale pour vous ?
Non, j'ai plein de cahiers, vous savez, des petits cahiers tiens.
Ah ben oui, vous en avez là sous les yeux, avec des notes. Ça. Ah oui, vous notez beaucoup ?
Des débuts de chansons, des débuts de... Et puis je dis, oh, c'est mauvais, allez, laisse tomber. Ah oui. Mais ça m'amuse beaucoup, j'en ai plein.
Ah oui, malgré tout, voilà.
Malgré tout, oui.
Et alors, quand on écrivait pour vous une comédie musicale, parfois vous arriviez aussi avec une idée pour une chanson, etc.
Ah ben oui, vous étiez... On travaille surtout avec Mareuil, on a toujours travaillé la main dans la main avec Mareuil.
C'est ça, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe.
Avec Gérard Gustin, là, qui a envoyé la musique.
Alors voilà, ça c'est donc la dernière de ces comédies musicales, c'est en 1982.
Pour Saint-Martin.
Envoyer la musique, création à Avignon comme le précédent.
Absolument.
Et reprise à la Porte Saint-Martin, encore un théâtre qui existe toujours.
Ils ont eu du bol là. C'est passé pourtant.
Alors comment ça s'est passé la naissance de Envoyer la musique, Annie Cordy ?
Et on avait, avec Jacques Marais et Gustin, ces deux berlurons m'ont écrit Tata Yo-Yo. Voilà. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sur le grand chapeau ? Bon, alors, on s'est dit, on ne va quand même pas appeler ça Tata Yo-Yo.
Non.
Ben, on a eu tort.
Pourquoi pas ?
On aurait dû.
D'ailleurs, oui.
Non, on a voulu être bon genre. On s'est dit, oh, oui, la musique, c'est mieux, quoi.
Ah, voilà.
Tata Yo-Yo, ça fait un peu trop populaire, quoi.
Ah, oui.
Ben, on a eu tort, voilà. Ouais. Mais enfin, la comédie musicale, elle existe de toute façon.
Mais ça n'a pas été tout à fait le succès que vous espériez, celle-ci.
Non,
en dessous.
Un peu en dessous, je trouve. En dessous, non. On était bien accompagnés par Patrick Préjean. C'était pas n'importe qui, Patrick Préjean. On s'est régalé avec Patrick et Gérard Chambre, que j'avais eu donc dans Indien vaut mieux que tu l'auras. Gérard restait un copain comme Patrick, bien sûr. Bernard Voringer, c'était un très bon comédien.
Et c'était quoi le sujet du spectacle ?
Il me demande toujours le sujet. Écoutez, moi, cher auditeur, Benoît est un garçon charmant. Mais il me demande toujours qu'est-ce qui se passait dans les comédies musicales que j'ai jouées. Je ne peux pas vous dire, je ne m'en souviens pas.
Vous avez fait tellement de chansons, tellement de spectacles que j'imagine que quand vous y êtes, vous y êtes, et puis après vous êtes au suivant.
D'ailleurs, Benoît, il y a des moments où je me dis, comment tu t'appelles, toi ?
C'est drôle.
Oh, faut bien s'amuser dans la vie. Non, mais bon, si vous me donnez le livret, je vous dis tout de suite. Hein, mais là, je ne l'ai pas. Bon. Alors, je sais que ça se passait très bien avec Cathy Kriegel, Michel Laure, Nicole Bermin, voilà. Et avec la partition de mon pote, le clariboliste bien connu, Christian Morin.
Bien sûr.
Qui venait clariboler.
Qui venait clariboler pendant le
Michel
spectacle.
Et Michel Barouille, mon trompettiste que j'ai dans mon tour de chant.
Vous chantiez la fête des perroquets.
La fête des perroquets, la répétition de la fête des perroquets. J'avais, sur le plateau, il y avait en plus une estrade qui était en deux parties. La veille de commencer, donc la répétition, la générale, je suis sur un trapèze à 8 mètres. J'arrive à la fête des perroquets. J'étais habillée en perroquet, j'avais toutes les couleurs. Ah, j'adore.
Ouais.
J'adore. Et puis j'arrive sur cette estrade et ils avaient oublié de fermer. Ce qui fait que je suis arrivée, les deux estrades se sont ouvertes et je suis tombée entre les deux.
Ah oui, c'est pas mal.
Ah oui, c'est pas mal. Le lendemain, pour la première, j'avais une jambe toute bleue. Ça se voyait pas trop avec mes barésies, mais voilà. Ah non, mais j'en ai fait des trucs.
Puis vous continuez d'en faire.
Absolument.
Mal, hein.
Et avec Patrick Préjean, j'avais une chanson qui s'appelait Nini Pompon. Nini Pompon, c'était pas bidon, c'était du béton. Nini Pompon. Enfin bref. Et j'avais une perruque blonde immense. Et un petit peu comme Frida ou Papa, où les nattes remontaient je faisais monter les nattes à la verticale.
Oui.
Et on m'avait dit jamais, je sais plus, quelqu'un m'a dit, on ne peut faire monter, en tirant quelque chose par le bas, on ne peut pas faire monter je dis, je vais les bouffer, ces nattes, mais montrant à la verticale. Et c'était pareil avec ma grosse perruque jaune et Nini Pompon. À chaque fois, j'avais mon gros toupet qui bougeait comme ça.
Ah oui.
Mais il n'y a que moi pour faire des bêtises comme ça. Mais je me régale, Benoît. Mais quand je ne me régalerai plus de tout ça, eh bien, je serai morte.
Ouais.
Laissez-moi vivre. Laissez-moi mordre dans la vie et faire ce qui me plaît et faire plaisir aux enfants. Les enfants qui voient ça, ça les amuse. C'est formidable.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Non, mais, et en plus, vous avez montré plus d'une fois au cinéma, au théâtre, que vous, en plus, vous pouviez aussi aborder d'autres registres quand vous vouliez le faire avec beaucoup de talent.
Mais une personne, qu'est-ce que ça n'est pas tout le temps. Ouais. Ça n'est pas tout le temps la gueule, ça n'est pas tout le temps.
Ouais.
C'est normal. On a tous ça en nous. Des choses drôles, des choses moins drôles, des choses tristes, parce que dans la vie, on passe des moments qui ne sont pas toujours très gais non plus.
Voilà, mais dans l'ensemble, vous êtes plutôt là pour nous remonter le moral.
Absolument.
Quand même,
hein. Oh là, j'ai toujours, mais je suis pas. Moi, je ne veux pas leur faire. Ils ont leurs problèmes, je ne veux pas leur faire partager les miens, les leurs, voilà.
On a dit que je suis une enfant de la balle. Que papa m'éveillait en jouant des cymbales et que maman était une star à Bobino, à l'Alcazar. Mais tout ça, ce sont des bobards, des canulars, des blagues. J'ai appris dernièrement en lisant le journal que j'ai un fils espagnol et qui est cardinal. Ça fait parler, ça fait des vagues. On dit que je suis, c'est le plus beau depuis 10 ans bientôt, la femme de Jacques Chazot.
Du vent, du vent, du vent, du vent, du vent.
J'ai chez moi, paraît-il, plus de 100 canaris, un guépard, une autruche et 50 ouistiti. On dit que je fais de la planche à voile sur le jet d'eau de la place Pigalle, que l'on verra bientôt en rousse dans les trois mousses. C'est pas vrai, je vous jure, on dit n'importe quoi. Une photo en maillot et tout le monde croit que je passe ma vie en vacances. J'ai même lu dans le New Morning que pour faire du camping, j'ai acheté un Boeing.
Du vent, 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 du vent.
Le lundi, on vous dit que je rentre à l'écran. Le mardi, c'est fini, puisque j'entre au couvent. Le mercredi, c'est la Tosca, que je vais chanter à l'opéra. Mais le jeudi, chagrin d'amour, je fais le tour du monde. Vendredi, je reviens couverte de dollars pour créer chez Béjart la danse des canards. Je me laisse emporter par la ronde. Pourquoi faut-il que je réponde? Je veux laisser les gens rêver. Je veux qu'ils croient à mon roman, même si souvent je sais que c'est du vent. Du vent, du vent, du vent, du vent.
Belle chanson.
Belle chanson. Extraite d'Envoyer la musique. C'était en 1982. Mmh. C'est pour l'instant votre dernière comédie musicale.
Oui,
Annie
Cordy.
Oui. Enfin, on sait jamais.
Là, je suis
hein.
au théâtre.
Là, vous êtes au théâtre. Après, c'est voilà. très bien. Vous m'en voulez pas de pas vous avoir appelé baronne pendant toute l'interview. Puisque vous êtes la baronne Coremann.
Oui, oui.
Hein, anoblie par le roi des Belges.
Absolument. Ça, merci.
Vous méritiez merci bien ça roi. Après l'extraordinaire carrière qui est la vôtre.
Merci. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Pourtant, je ne suis pas une femme qui recherche les honneurs. Je ne suis pas du tout honneur du tout. Oh non, non, non. J'ai plein de médailles.
Comment est-ce que vous regardez aujourd'hui, puisqu'on en reparle à nouveau tout le temps, la question belge?
Oh, m'en parlez pas, moi, ça me rend malade.
C'est vrai.
Un tout petit pays comme ça. Mais ça dure depuis des années. Hein.
Mais vous êtes pour l'unité.
Moi, je suis pour l'unité.
Belgique.
Écoutez, quand même, non, notre devise, c'est quoi?
Oui.
L'union fait la force. Non, mais attendez, quand même.
Oui,
franchement, de quoi on a l'air?
Bon.
Moi, ma devise, c'est la passion fait la force.
Voilà. Vous pouvez peut-être vous lancer dans la politique pour la dernière partie de votre parcours.
Non, non, non.
Essayez de
Il est méchant, fédérer
les Belges.
Mais non, je ne veux pas. Je ne veux pas me mêler de ça. Mais quelquefois, vraiment, comme on dit,
oui,
j'ai les moules.
Ça vous fait un
j'ai
petit
les
peu
moules
mal.
Et frites,
ça vous
comme
fait
on dit.
Un... vous la Brabançonne.
Oui, voilà. Voilà. Attention.
Bon, merci beaucoup, Annie Cordy. C'était un plaisir d'évoquer avec vous tout ce parcours. Et puis, on dira jamais suffisamment aux auditeurs, quand ça va pas bien, une petite
dose, quoi.
Dose d'Annie Cordy. Hein. Il n'y a pas de meilleur remède.
Merci, Benoît. Merci.
Je préfère les concerts classiques, la grande musique, l'opéra, oh là là.
À la Tosca ou la Traviata, j'aime mieux sans voix la bossa nova.
Vraiment, tu sais, tes goûts sont bizarres, pour moi le grand art, c'est Mozart, oh là là.
Tu as raison, c'est plein d'émotions, viens me faire danser le vrai tamouré.
Aïe, dis-moi qu'on danse,
gèle les doigts, on est bien ici, restons à Paris.
Si tu savais que dans ce pays, on voit le soleil à minuit chaque nuit.
C'est magnifique, mais à Saint-Tropez, on le voit aussi, et c'est à côté.
Aide-moi pour danser.
Western, parfois me délasse, et puis le Texas, c'est sans sas, oh là là.
Moi les Indiens ne me disent rien, j'aimerais toujours les films d'amour.
Pourtant Zorro, les chevaux sauvages, les verts pâturages, de l'Ohio, que c'est beau.
Bien sûr Nini, mais comme j'ai du cœur, je préfère encore les films où je pleure.
Oh là là, un diamant bleu, mais c'est merveilleux, surtout quand il a plus de 20 carats.
Ce diamant bleu, je veux l'échanger contre un seul baiser dans tes bras. Oh là là.
Pardonne-moi si parfois j'ai tort, cette fois tu vois, nous sommes d'accord.
Aïe, pourquoi on s'aime? C'était Annie Cordy en duo avec Luis Mariano en 1963. Et c'est sur cette chanson que s'achevaient les deux entretiens que j'avais eu la joie d'enregistrer avec Annie Cordy, diffusés pour la première fois les 29 mai et 5 juin 2010. Annie Cordy, d'ailleurs, évidemment, vous la retrouverez dans Étonnez-moi Benoît, au hasard de l'actualité et de mes envies, mais je vous recommande aussi de l'écouter en disque ou sur les plateformes, et notamment dans ces deux importants coffrets par chez Marianne Mélodie qui rassemble, je crois, la totalité de la discographie d'Annie Cordy.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et pour terminer cette émission sur le mode instrumental, je vous propose une grande valse symphonique française du 19e siècle, valse que vous connaissez presque tous d'ailleurs sous le nom de valse du ciné-club, mais ça n'est pas son vrai titre. En réalité, elle s'appelle Amour et printemps. Elle fut composée par l'Alsacien Émile Waldteufel et on l'écoute par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg sous la direction de Theodor Guschelbauer.
Thank you.
Amour et printemps, la grande valse d'Émile Waldteufel, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg sous la direction de Theodor Guschelbauer, dans un excellent disque d'ailleurs entièrement consacré à Waldteufel sous le titre Bal sous le Second Empire. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Philippe Mercher, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, j'accueillerai à ce micro l'humoriste Philippe Chevalier. Bon week-end à tous sur France Musique, où maintenant vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.